Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 4 avril 2025. La table citoyenne Littoral Est, Accès Saint-Laurent-Beauport et d'autres organismes demandent aux candidates et candidats aux élections fédérales de la région de Québec de s'engager à transformer leur quartier en un territoire plus propre, plus sain et comportant davantage de logements sociaux. Selon ces organismes, il y a trop d'activités industrialo-portuaires, de contamination des sols et de pollution de l'air à proximité d'une population vulnérable. Ces organismes veulent notamment que les candidates et candidats reconnaissent la zone sacrifiée du littoral Est et s'opposent à un éventuel projet de terminal de conteneurs promu par l'entreprise QSL au port de Québec. Les travailleuses et travailleurs de la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, se sont prononcés à 88 % pour exercer des moyens de pression lourds pouvant aller jusqu'au déclenchement d'une grève générale illimitée. Selon le président général du SFPQ, Christian Daigle, le refus du gouvernement Legault d'offrir le rattrapage obtenu par l'ensemble du secteur public en 2023 empêche d'en arriver à un règlement négocié. M. Daigle ajoute que les travailleuses et travailleurs de la CEPAC sont des passionnés qui ne souhaitent pas que les activités de pêche, de chasse, de camping et de plein air des Québécois et Québécoises tombent à l'eau, mais leur précarité financière est en jeu. En partenariat avec la Ville de Québec, une campagne de financement visant à offrir un avenir stable à des centaines de personnes en situation d'itinérance vise à amasser 3,2 millions de dollars sur 4 ans afin de renforcer le programme Porte-clés, auquel 9 organismes communautaires de la région contribuent. Depuis 2015, ce programme a permis à 400 personnes de réintégrer la vie active de manière durable. Intitulée « Un toit avant tout », la campagne de financement lancée par la famille Choquette a pour but de soutenir une deuxième équipe dédiée au programme Porte-clés, ce qui permettrait de doubler le soutien à la lutte contre l'itinérance. S'adressant aux enfants de 6 à 12 ans, l'exposition « Mécanique céleste » de l'artiste Diane Landry a débuté hier à la Maison Amel Bruno et se poursuivra jusqu'au 24 août. À l'aide d'objets du quotidien et de matières recyclées qui s'animent sous l'effet du mouvement, de la lumière, du son et de la vidéo, Diane Landry aborde les échelles temporelles distinctes propres aux humains, à la nature et au cosmos. Gratuite pour tous, l'exposition est ouverte au public du jeudi au dimanche de 13h à 17h jusqu'à la fin juin et du mercredi au dimanche de 11h à 17h par la suite. La maison Amel Bruno est située au 2608 Chemin Saint-Louis. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Tout habitant de Nouvelle-Angleterre, cette terre du seigle et du maïs, pourrait aisément cultiver ses propres ingrédients pour faire son pain sans avoir à dépendre de marchés lointains et fluctuants pour se les procurer. Pourtant, nous sommes tellement éloignés des principes de simplicité et d'indépendance que l'on ne trouve aujourd'hui que rarement de la farine fraîche dans les échoppes de Concorde. Et que le maïs en semoule ou en mouture, encore plus frustre, est une denrée que, pour ainsi dire, plus personne n'utilise. Le plus souvent, les fermiers utilisent les céréales qu'ils cultivent pour nourrir leur bétail et leur porc, et ils vont au magasin acheter de la farine raffinée, qui n'est vraisemblablement pas plus saine et certainement plus chère. J'ai constaté que je pouvais cultiver sans peine un ou deux boisseaux de seigle et de maïs, car le premier pousse même dans les sols les plus pauvres, et le second n'a pas besoin d'une terre des plus fertiles. Puis les moudre dans un moulin à main et me passer ainsi de riz et de porc. Quand j'avais besoin d'un ingrédient, faute de forte concentration de sucre, j'ai également constaté d'expérience que je pouvais confectionner de la très bonne mélasse à base de potiron ou de betterave, et je savais qu'il me suffirait de planter quelques érables pour obtenir du sirop encore plus facilement. Le temps qu'il pousse, je pourrais continuer à utiliser divers succès d'années en su de ceux que je viens de nommer.
Je ferai ma
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on va avoir avec nous un invité, Éric Brassard, qui va nous parler de l'alimentation en lien avec le climat. L'alimentation, on pourrait dire, végétarienne. Il va nous parler de son organisme qui s'appelle Transition alimentaire Québec. En attendant, j'ai quelques lectures pour vous. Juste une seconde. Alors, oui, alors c'est ça, j'ai une annonce aussi, c'est on aura un café philo jeudi prochain au café Le Mot de Tasse, pour ceux qui s'intéressent, à 19h, jeudi la semaine prochaine. Hier, on a eu une projection de film avec les Amis de la Terre à la bibliothèque Gabriel Leroy. C'est un excellent documentaire d'Hugo Latulippe sur le bonheur intérieur brut. Et c'est une série de documentaires, je pense qu'il y en a 7, et qui sont disponibles sur le site Internet de Télé-Québec. C'était vraiment un bon documentaire sur la simplicité volontaire pour ceux qui s'intéressent. Alors, je vous le recommande fortement. C'était surprenant comment c'est bien fait. Et en tout cas, je trouve que c'est un bon documentaire pour expliquer la simplicité volontaire. Ensuite de ça, dans mes lectures, j'ai dans Le Devoir de lundi. Les oiseaux ne se cachent même pas pour mourir à Blainville. La protection de la biodiversité est l'affaire de tout le monde. C'est un texte de Catherine Anne Morin sur tout le dossier là, de la c'est une entreprise de déchets qui s'appelle Stablex, une entreprise américaine qui veulent enfouir des déchets toxiques près d'une tourbière. Alors, les citoyens de Blainville, évidemment, sont pas contents. On dit « S'intéresser aux espèces menacées et à leur espace de vie ne relève aucunement de la sensiblerie qui, pendant bien longtemps, a permis de mettre de côté les enjeux relatifs à la protection des espèces menacées. Ce n'est pas en raison d'une émotion spontanée ou momentanée que l'on s'intéresse à la préservation de ces êtres parce qu'on les trouverait beaux, comme on dit, mais bien pour préserver les milieux et la cohabitation entre les espèces animales et humaines, et également pour assurer le respect et de la législation en vigueur. » Alors, il y a des citoyens qui contestent ce projet-là. On dit, c'est dans Le Devoir d'aujourd'hui, vendredi, Blainvillois au combat, des résidents de la ville des Basses-Laurentides se mobilisent pour protéger les milieux humides contre l'agrandissement du site Stablex. On dit, on ne baissera pas les bras, on est combatif. Marie-Claude Archambault a beau rester positive, le rejet de l'injonction pour faire suspendre le projet de loi du gouvernement caquiste adopté sous le baillon pour permettre à l'entreprise Stablex de commencer les travaux d'agrandissement de son site d'enfouissement dans la tourbière de Blainville est un dur revers. On a des gens forts mobilisés et on a encore plein de possibilités, ajoute la porte-parole de la Coalition des citoyens de Blainville contre la cellule numéro 6 de Stablex. Puis là, il n'y a pas juste la Blainville, il y a la communauté urbaine de Montréal. Et il y a une grosse mobilisation là, concernant ce projet-là. En tout cas, ça, c'est à suivre. Pour ceux qui s'intéressent, c'est dans Le Devoir d'aujourd'hui. Ah oui, puis dans Le Devoir toujours dans Le Devoir de jeudi, texte intéressant, détester le message du chaos tarifaire, mais pas le message. Et si l'on profitait plutôt, on en profitait plutôt pour réviser le modèle économique qui nous a mis dans le pétrin. L'auteur, c'est Maïka Sundarji. Elle dit « La réponse chaotique aux tergiversations tarifaires qui nous tient rivés à nos écrans depuis plusieurs semaines. La réponse canadienne est devenue un mantra. Favoriser le commerce interprovincial, varier nos partenaires économiques et soutenir nos entreprises. Malgré mon approbation relative de ce plan, force est de constater que celui-ci a été développé à main levée sur le coin d'une table. Dans l'urgence, peu d'analyses abordent la question plus fondamentale d'une révision du modèle économique qui nous a mis dans ce pétrin. La libéralisation des marchés, accélérée depuis les années 80, a chassé notre économie et notre souveraineté à celle des États-Unis, alors que la valeur fondamentale promue par ce modèle était la liberté des particuliers et des entreprises. Nous voyons aujourd'hui que les chaînes de production du libre marché nous rendent tributaires des décisions de nos voisins. Le chaos tarifaire pourrait-il nous faire revoir cette introduction du libre marché? Mon collègue économiste Luclan Moreau explique dans un article du blog de McLeod Group que notre dépendance aux États-Unis découle de cette idéologie qui, depuis les années 80, promeut un gouvernement minimal de faibles taxes, la privatisation d'État et un mouvement plus libre des personnes et des biens, et compagnies. Tout cela, nous disait-on, nous rendra plus riches et heureux. Alors, c'est quand même fascinant qu'on est en train de remettre en question la mondialisation, là, présentement. En tout cas, c'est une réflexion intéressante dans le Devoir de jeudi dernier. Ensuite de ça, pour ceux qui s'intéressent au niveau de la philosophie, il y a un hors-série, le numéro hors-série du Point. Toute la philosophie, plus de 200 citations expliquées. Moi, j'aime toujours ça, c'est hors-série-là. Puis, franchement, ça vient d'arriver en kiosque. C'est un beau numéro, hors-série, le Point. Alors, voilà. Alors, on prend une pause musicale pour retour. On parle avec notre invité, Éric Brassard.
C'est le printemps, viens en paquette te promener au bois joli. Les poules dans la cour caquette, l'aube au ciel fait de roses plis. L'amour chemine à ta conquête, à ta conquête. Mars et Vénus sont revenus et s'embrassent, ta bouche folle devant des sites ingénus ou sous les roses qui feuillolent. De beaux dieux roses dansent nus. Danse nue, viens ma tendresse et la régente de la floraison qui paraît. La nature est belle et touchante, pensif flotte dans la forêt. Les grenouilles humides chantent, beaucoup de ces dieux ont péri. C'est sur eux que pleurent les saules, le grand Pan, l'amour, Jésus-Christ sont bien morts. Et les chamioles dans la courge pleurent à Paris. Moi qui sais délai pour les reines, les complaintes de mes années, les hymnes d'esclaves aux murennes, la romance du mal-aimé et des chansons pour les sirènes, pour les sirènes. L'amour est mort, j'en suis tremblant, j'adore de belles idoles, les souvenirs lui ressemblant, comme la femme de Mausole, je reste fidèle et dolent. Mais en vérité, je l'attends avec mon cœur, avec mon âme. Et sur le pont des revient-temps, si jamais revient cette femme, je lui dirai, je suis content, je suis content. Mon cœur et ma tête se vident, tout le ciel s'écoule par eux. Oh, mes tonneaux des Danaïdes, comment faire pour être heureux, comme un petit enfant candide. Te promener au bois joli, les poules dans la cour caquette, l'aube au ciel fait de roses plis. L'amour chemine à ta conquête, à ta conquête.
Alors, bonjour Éric.
Oui, salut, bonjour.
C'est ça, c'est, on a invité Éric Brassard, qui est du de l'organisme, il faudrait que tu nous parles de ton organisme, Transition oui. Alimentaire Québec.
Oui, la Transition Alimentaire Québec, TATQ, comme on dit entre nous. Donc, c'est un organisme qui a été créé, si on peut dire, on a commencé en novembre 2023, et on a sorti de l'ombre plus là, au mois de novembre 2024 avec une lettre ouverte. Mais la mission, si on peut dire, ou la vision okay, de TAC ou Transition Alimentaire Québec, dans le fond, si je le lis un petit peu, là, elle se donne comme mission d'accélérer la transition juste et équitable vers un système agroalimentaire durable, avec comme objectif prioritaire de remplacer la moitié des produits animaux consommés par des végétaux d'ici 2030. C'est un peu, en consultant à gauche et à droite, là, un peu l'objectif quantitatif là, qu'on peut se donner. Mais évidemment, tout en appuyant, comme on est un groupe de bénévoles, comme on dit, on peut pas tout régler, là, mais tout en appuyant toutes les autres approches, entre autres le gaspillage, bien sûr, les OGM et tout ça, mais aussi, OK, de faire en sorte que les pratiques agricoles soient plus respectueuses des écosystèmes et d'aider surtout les agriculteurs et les éleveurs à vivre cette transition-là, parce qu'on sait qu'ils ont de la pression, ces gens-là, ils travaillent en fou, ils ont des risques d'affaires très, très, très importants. Et puis, il suffit qu'il y ait une petite bizarrerie climatique comme année, puis là, leur culture a plein de problèmes avec de nos jours. C'est encore. Et d'autant plus qu'ils n'ont pas beaucoup de revenus, en plus, par rapport à tout le temps qu'ils mettent. Donc, tout ça doit être fait en collaboration avec ces gens-là pour les aider. Mais l'objectif, OK, dans le fond, c'est réduire la consommation de viande, particulièrement, évidemment, tout ce qui génère du méthane, le bœuf en particulier. Et notre approche n'est pas idéologique, là. Tu sais, on n'est pas... c'est vraiment basé sur la science. Okay, sur les études scientifiques, ne serait-ce que le Guide alimentaire canadien, okay, qui a sorti en 2019 sans lobby de qui que ce soit, puis qui n'a pas été écrit non plus par, à l'inverse, par des écologistes ou des, ou des méchants granos, là. Okay, c'est des scientifiques puis des gens qui l'ont travaillé, ou encore là, le premier article dit bien clairement là, que... Oui, la consommation de viande, c'est sûr qu'il y a des... Au niveau alimentaire, il y a des avantages. Mais ce qu'ils disent, c'est que mettez l'accent beaucoup plus sur les produits aliments végétaux, ne serait-ce que les fruits et légumes, bien sûr, mais toutes les légumineuses, toutes les protéines, OK, qui peut être... et aussi sur la commission Eat Lancet, qui est un organisme international là, qui a été travaillé avec 37 scientifiques de 16 pays, où la conclusion est grosso modo la même là, que ce que le Guide alimentaire canadien, où clairement là, les protéines végétales représentent peut-être 2, 3, 4 % de l'alimentation par rapport aux grains entiers, légumes, fruits, les huiles, les légumineuses, les noix, toutes les grains entiers, etc., les féculents. Et donc, c'est basé sur la science. Et évidemment, il y a plusieurs raisons là, de réduire sa consommation de viande, mais celle sur laquelle, les deux sur lesquelles on insiste plus, c'est les questions d'environnement. Évidemment, c'est sûr que, bon, faut évidemment, le bœuf, ça émet du méthane énormément, ce qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2 ou des trucs comme ça. Et aussi, ben, l'effet sur les terres utilisées, la déforestation, okay, que ça implique. Et évidemment, aussi la déforestation pour les bêtes, mais aussi pour la nourriture qui sert pour les bêtes. Okay? Des fois, les gens disent, « Ouais, mais il y a beaucoup de soya qui est consommé. » Mais oui, mais le soya, souvent, il est consommé par les bêtes. Hein? Okay? Donc, c'est beaucoup basé sur... Oui,
bien, moi, il y a deux choses là, que je retiens là, dans votre affaire. C'est d'abord le nom de l'organisme, Transition Alimentaire Québec. Transition.
Oui.
Ça s'inscrit dans tout ce qu'on appelle la transition. Ça, oui. J'aime ça, ce nom-là, parce qu'on est là. Là. Une transition, ça veut dire qu'on est entre deux. Là.
Oui.
Et on est dans un parcours, dans le fond.
Exact.
Puis on parle, par exemple, de la transition énergétique. On veut réduire notre consommation d'énergie fossile. Parce que la transition, c'est quoi? C'est on transite vers un monde qui est plus viable, là, qui est plus durable. Puis, fait que ça, c'est la première chose, la transition. Puis deuxième chose, c'est ce que j'aime, en tout cas. Mais là, c'est plus large que juste... La consommation, là, c'est la production, tout ça. Mais quand même, pour nous, les individus, quand on parle de changement climatique, on a peu de choses qu'on peut faire, c'est les industries Mais ça, on a cette capacité-là en tant que consommateur. Ouais. C'est facile, réduire notre consommation. Ah, pas l'éliminer, mais c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Là.
Absolument. Quand on parle de transition, effectivement, pour votre premier point, c'est clair qu'on n'est pas en train de dire aux gens demain matin, devenez végétarien puis une coupure en deux jours. Là. OK, c'est une habitude à prendre, c'est un changement, faut apprivoiser ça, les nouvelles recettes, une nouvelle façon de faire, puis peut-être un peu s'informer, mais on sait qu'on est très occupé et tout ça. On peut s'informer un petit peu pour être convaincu aussi qu'il n'y a pas de manque. De toute façon, entre végétarien puis végétalien ou vegan, là, il y a quand même des niveaux aussi. Commencer par végétarien, déjà, ça garde les œufs puis des produits laitiers. Ça fait que ça enlève des fois des stress à des gens qui ont peur, mettons, de... Peur, c'est un grand mot, qui craignent de manquer de nutriments quelconques. Ça peut être une étape, mais d'apprendre régulièrement à y aller. Et effectivement, l'autre point, comme vous dites, bien, c'est sûr qu'avec... les énergies fossiles, tout ce qui est la deuxième source de GES, c'est l'alimentation, c'est l'agriculture. Et comme on dit, on fait 3 repas par jour, 21 par semaine ou 1000 par année repas. Ben, c'est sûr que c'est un endroit où ce qu'on peut avoir des impacts, mais aussi pas nécessairement avec une privation. Là. C'est ça, il peut y avoir du plaisir aussi là-dedans. Là. OK, puis encore une fois, il y a les... graduellement, sans... on essaie une recette de temps en temps. Sur 5 recettes qu'on fait, il y en a une qu'on va aimer beaucoup, puis les deux, un autre, puis bon, les autres, on les fait pas, puis c'est tout. Tu sais, on s'en va dans les librairies maintenant, puis on regarde le comptoir de livres végétariens. L'autre jour, j'en revenais pas, là, chez une librairie, là, qui en avait tellement. J'ai dit, mon Dieu, c'est vraiment... Les gens commencent à... Puis même Ricardo, là, t'as pas besoin d'aller dans quelque chose de très... de très spécialisés, là, Diastasio ou Looney, c'est sûr, que c'est tous des gens qui... T'en essayes une de temps en temps, puis c'est pas besoin d'être compliqué non plus. Là.
C'est une cuisine que je trouve créative. Bien, moi,
ah oui.
Moi, je suis végétarien, là. Puis il y a tout plein de secteurs de l'alimentation quand on n'est pas végétarien, qu'on connaît pas, qu'on n'explore pas du tout. Puis... La cuisine végétarienne, même, elle est partout en Asie, en Moyen-Orient. Par exemple, hier, je me suis fait des falafels.
Ben
c'est délicieux, des falafels. Mais c'est pas connu.
C'est pas connu.
C'est facile à faire, là. Puis en Moyen-Orient, ils mangent ça beaucoup, là, ben des pitas avec falafels. Là. Puis on peut même... Là, moi, je l'ai acheté... t'as des mélanges déjà préparés.
Ben oui,
mais
c'est ça.
Tu peux le faire toi-même aussi.
C'est
là.
Ça. Les falafels, c'est très facile d'en acheter toutes faites. Là.
Aussi.
Il y a plein d'endroits qu'on...
Le mélange, tu parles, le mélange de la poudre.
Oui, la poudre, mais même le falafel lui-même.
Ah, le falafel, ben oui, congelé probablement.
Congelé, ou même si on va dans des épiceries, là, souvent, moi j'en mange effectivement beaucoup, là, des falafels.
Puis toutes les croquettes qu'on peut faire,
ben oui.
Ça, c'est tout un univers à partir de du soya, à partir des légumineuses, des farines. C'est sans fin, là.
Puis ben, c'est ça. Comme je dis souvent à des gens, dis-t'en, quand tu fais des pâtes au pesto, là, c'est pas besoin d'être compliqué, là. Tu mets des pâtes, puis tu mets toutes sortes de choses là-dedans, puis, je veux dire, dans la transition. Puis après ça, ben, de temps en temps, on fait une recette un peu plus sophistiquée, si on veut, ou qui demande un peu plus de temps, mais encore là, pas tant de ça que ça non plus, là, mais il faut... Donc oui, il y a moyen de y aller... c'est un peu comme le transport, là, on a chacun... Bon, prendre les transports en commun plus souvent, hein, puis limiter nos transports, marcher, etc. Mais dans l'alimentation, c'est sûr que notre lien peut être assez rapide. Puis c'est sûr que c'est la masse, là, la loi, l'offre, la demande. C'est sûr qu'à partir du moment qu'il y a plus de demandes... Bien, moi aussi, je suis végétarien pas mal depuis 40 ans, avec toutes sortes de périodes là-dedans un peu moins intenses, là. Mais on voit aujourd'hui dans les épiceries beaucoup plus d'options. Dans notre temps, on pensait un peu des extraterrestres, là, ouais. Tu sais, d'être végétarien et d'essayer toutes sortes de choses comme ça. Mais de nos jours, on rentre, que ce soit IGA ou métro ou n'importe quoi, il y a toujours un comptoir là, de produits, ne serait-ce que le végé-pâté, tu sais, puis des pâtés...
Toutes les recettes se font végétariennes. Exemple, une recette que je trouve bonne, c'est le poulet cacciatore, mais tu peux le faire au tofu, ton ben poulet oui. cacciatore. Mm-hmm. C'est sûr que si tu veux être maniaque, ce que tu peux faire, tu peux acheter juste comme une carcasse de poulet, parce que c'est... Le, tu sais, c'est avec du vin, là, il appelle ça, je me souviens plus comment on appelle ça, il y a un terme pour ça que tu mets dans ton... Faire la sauce, là, en tout cas.
Le goût,
là, tu sais. Ouais. Déglacer, parce que déglacer. Si on le fait juste végétarien, on peut pas faire l'étape du déglaçage là, avec du vin. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on va sur Google, pour n'importe quelle recette, poulet con carne, il va avoir poulet, mais chili con carne, il va avoir un chili végé, il va avoir...
Général Tao,
qui était un classique avec le tofu.
Alors, il y en a plein.
C'est aujourd'hui, là, c'est une cuisine qui est intéressante, complète, même délicieuse, là, dans le fond.
C'est ça.
On ne se prive pas, là.
Des fois, on parle des raisons de devenir végétarien. On parle des fois de l'environnement, on parle de la santé, on parle de l'éthique. Mais moi, j'en rajoute toujours une autre. C'est le plaisir, le goût nouveau qu'on peut trouver là-dedans, là. Parce que, bon, la viande, c'est bon, mais c'est quand même pas toujours l'extase, là. Je veux dire, c'est bon, mais je veux dire, il y a moyen de trouver d'autres formes de goût, d'autres types de goût. Encore une fois, de façon transitoire, là, l'idée, c'est pas de que ça devienne... on peut y aller étape par étape.
Cheminer.
Tu sais, mais c'est ça, cheminer là-dedans, puis trouver d'autres goûts que juste le sucré, salé, gras, là. Puis, tu sais, de voir toutes sortes d'épices, toutes sortes de mélanges, puis... T'sais, moi, j'aime beaucoup manger, puis c'est un festin chez nous, souvent, là, avec ma conjointe qui est tellement bonne, là, OK, pour faire la cuisine. Mais je dis, c'est bon. Il y a moyen que ce soit bon, que ce n'est pas obligé d'être plate, puis c'est pas obligé d'être toujours du tofu, comme les gens pensent, là. OK, que c'est on mange ça trois fois par semaine ou quatre fois par semaine, mais non, tu sais, il y a toutes sortes de mélanges avec des choux-fleurs, avec...
Même le tofu, c'est parce qu'il faut que ça soit apprêté. D'ailleurs, en partant, ça prend un bon tofu frais, puis ça, c'est d'autres choses aussi. Les gens n'aiment pas le tofu souvent parce qu'il est suri, là. Ouais. Quand il est jaune, il ne faut pas... bon, là.
Puis il faut l'apprêter,
Il faut l'apprêter,
du beurre d'arachide ou avec toutes sortes d'options qu'on peut trouver, là. Mais ça peut être aussi, comme tu dis, des pâtés au millet, ou ça peut être des pâtés aux légumes, ça peut être des pizzas... rempli de toutes sortes de choses. Il y a beaucoup d'options.
Bon, là, on va prendre une pause musicale, puis après ça, on va embarquer plus dans concrètement votre organisme. Là, qu'est-ce qu'ils font? Parce que là, on a parlé un peu des avantages du végétarisme. Vous voulez favoriser le végétarisme par rapport au climat, mais vous avez créé un organisme, fait que vous faites plus que ça. Là.
Oui.
Alors, on revient avec Éric Brossard de Transition Alimentaire Québec.
Combien reste-t-il de jours de grâce? Au calendrier du temps fugace, pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches. Ils viendront de fleurs qui s'installent, toutes fraternelles et amicales, loin des champs de bataille où des humains sont pris en tenaille. Ils s'activent lorsque je me tais, sont pleins de promesses, je le sais, qu'arrive la calmie nécessaire pour chérir entre ciel et terre.
Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches. Dans le roulis du vaille que vaille, sont presque tous de belle taille, deviennent uniques et salutaires pour alimenter le mystère. Dans le roulis du vaille que vaille, sont presque tous de belle taille, deviennent uniques et salutaires pour alimenter le mystère. Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches.
C'était Jean-Marc Aurel de son dernier CD, le Je cours après la lune. La pièce, c'est Fruits et mystères. Avant ça, on avait eu Julos Beaucan de l'album Le jaseur boréal. C'était la pièce C'est le printemps, une pièce d'actualité. Et au début d'émission, on avait Richard Séguin. Qui mon CD était un peu, je voulais faire le tout près de l'étang, j'ai passé la pièce suivante parce que là, il faudrait que je remplace mon CD, là, il commence à être fatigué. Alors, on continue avec Éric, là, j'ai été voir, vous avez un site internet quand même, puis on voit des gens quand même, vous êtes structurés, là, qu'on a eu ici Stéphane Groslo qui est dans votre CA, que lui c'est un vegan, là, mais d'autres personnes quand même qui ont des parcours quand même intéressants, là.
On a commencé à se rencontrer sur le leadership de Renaud Gignac, qui a commencé à penser à ça, puis à communiquer avec plusieurs personnes. Première rencontre en novembre 2023, on était une vingtaine, grosso modo. Okay? Puis là-dessus, il y en a 5, 6, 7, 8 qui se sont montrés intéressés à s'impliquer plus activement. Là. Les autres, c'est des supports, ils nous aident. Là. Okay? Mais on est 5, 6 là. Et il y a eu plusieurs réunions, plusieurs attentes, puis on a prévu, au mois de juin, on a fait un genre de 5 à 7 avec des gens pour voir comment orienter les choses. Et comme on disait, le 18 novembre, il y a eu la lettre ouverte qui était envoyée avec le site web. Puis le site web, c'est Transition Alimentaire, là, Terre, T-E-R-R-E, là, et non pas T-A-I-R-E, là, si vous le cherchez, .org, OK, donc transitionalimentaire.org. Et effectivement, le site était quand même beau, tu sais, je veux dire, il y a du beau contenu, là.
Oui.
OK, donc l'objectif pour nous, c'est un gros objectif d'éducation, OK, puis de parler de ce sujet-là, là, puis d'amener aussi que les politiques évoluent, là. Actuellement, dans le plan d'économie verte du gouvernement, il n'y a rien sur l'alimentation, là. Il n'y a rien sur le... Et on a envoyé une lettre ouverte là, le 18 novembre qui est apparue dans Le Devoir, une lettre ouverte au ministre M. Charette, OK, où on, 40 personnalités quand même très connues, OK, ont signé la lettre ouverte, ne serait-ce que, bon, il y a eu des artistes connus comme Ève Landry, Roy Dupuis, Laure Varidel, puis Anaïs Baribeau, puis après ça, des médecins, M. Vadeboncoeur, que peut-être vous connaissez, ou Martin Junot, qui est un
cardiologue
là, qui fait beaucoup de recherches et qui indique bien les avantages. J'encourage les gens, pour ceux qui se préoccupent des questions de santé, là, si on ne pense pas juste à l'environnement, Le site de M. Junot, il y a des articles où régulièrement, il va indiquer, oui, quand on réduit la viande, ça aide pour le cœur, ça aide pour le cancer, ça aide pour le diabète et tout ça. Encore une fois, il ne dit pas nécessairement d'être 100% végétarien, mais il, clairement, il y a plein d'analyses, plein d'études de recherche qui montrent les avantages. Donc, ce monsieur-là et d'autres médecins ont signé, évidemment, des gens comme... le pharmacien, Olivier Bernard, qui a signé, Pierre-Olivier Pinault, là, qui est beaucoup impliqué dans les questions d'énergie.
La transition énergétique. La
transition énergétique, oui. Lui-même est VG ou vegan, je ne sais pas. Ben, Yves-Marie Abraham, qui est beaucoup dans la décroissance. Anne-Marie Roy, là, qui est une nutritionniste. Tu sais, donc, les économistes comme François Delorme, puis bon, Hugues Séguin, tout ça. Donc, c'est des gens... qu'on a présenté la lettre, qui ont signé parce qu'ils considèrent que c'est important. Là. Tu sais, cette lettre-là au ministre qui dit finalement, faites des politiques, OK, impliquez-vous plus un peu comme ministre, ne serait-ce que dans les ministères, puis dans tous les organismes gouvernementaux, que dans les repas avec la compagnie de traiteurs, OK, qu'il y ait des options VG. Imaginez-vous, il y a des cégeps maintenant, il y a des étudiants végétariens, ils arrivent au cégep, puis ils n'ont même pas d'option végétale. Tu sais, encore une fois, on ne dit pas que ce soit 100% végétal, mais qu'il y ait une option. Puis comme on dit souvent, faites juste des pâtes au pesto, au pire aller, là, si c'est trop compliqué, pour, si vous voulez faire de... Tu sais, essayez d'avoir des options pour éduquer les gens. On parle aussi, donc... d'avoir des politiques, d'aider les agriculteurs dans la transition, OK, puis de voir ça plus large sans nécessairement être idéologique, là. C'est juste normal. Vous savez, à New York, dans les hôpitaux, puis c'est ce qu'on dit un peu dans la lettre ouverte, dans les hôpitaux, il y a une option par défaut qui est végétale. Les gens peuvent le refuser, mais par défaut, ils offrent l'option végétale, la moitié l'accepte. C'est-à-dire 95% l'acceptent, OK? Puis la plupart des gens ont apprécié. Puis après ça, le lendemain, ils peuvent prendre d'autres choses. Mais au moins, tu sais, ça monte. Donc, on veut inciter là-dessus des webinaires. Là, on a déjà 3 webinaires de fait, une fois par mois. OK? Si vous allez sur le site, là, puis vous inscrivez à l'infolettre, là, vous allez être informé des prochains webinaires, là. Au mois de mai, au mois d'avril, il devrait en avoir un, là. Il n'est pas encore fixé, au mois de mai aussi. Tu sais, c'est sûr que c'est du temps. C'est tout est bénévole, hein, tu sais, dans notre groupe, là, des 6-7 administrateurs, puis 2-3 personnes qui tournent autour. Tu sais, l'objectif... Puis dans le site web, donc, en plus d'annoncer les webinaires, ben, on fait des liens vers des articles, là, justement, l'article, là, vers Hitler 7 ou la question de... local, OK, acheter local, qui est bien comme tel, mais qui n'est pas nécessairement le critère numéro un. Oui, acheter local, on est tous d'accord avec ça. Mais entre du bœuf local puis un végétal à l'extérieur, ben, le végétal à l'extérieur va quand même créer moins de GES malgré tout, OK, parce que le transport, c'est pas une grosse partie, OK, des GES. C'est la production, OK, qui et ça, les études le montrent. Mais c'est sûr que toute chose égale par ailleurs, on achète local. Ça, on est loin d'être contre comme ça. Mais je veux dire, c'est quand même pas le premier point si on parle d'un point de vue purement environnemental. OK, le premier point, c'est la production. Puis c'est la production, c'est 80% des GES. Oui, le transport, c'est à peu près 6-7% des GES. C'est pour ça que si on peut acheter local, c'est sûr qu'on achète local, mais... S'il y a d'autres critères en cause, là, le végétal l'emporte, là, en général.
Ça, donc, on a un gros rattrapage à faire de ce côté-là. Parce que même dernièrement, je suis allé une fois dans un centre de ressourcement que je nommerai pas, mais il y avait, j'en venais pas, un centre de ressourcement, il n'y avait pas d'option VG. Là.
Ah oui.
Je le croyais pas. Puis les cafétérias, souvent, c'est des concessions, puis c'est des hamburgers et des frites, là.
Ben oui.
Eux autres aussi, là, ils auraient besoin d'être éduqués un peu, là.
Moi, je vais régulièrement dans des cocktails, là, parce que là, mon ancienne vie, là, de conseiller financier et tout ça, puis même cette semaine, j'étais encore dans un cocktail, puis, tu sais, c'était long avant que j'aie une option végétale, tu sais. Puis surtout dans un cocktail, quand c'est des petites bouchées, c'est tellement facile ouais. de mettre du végétal. Puis les gens, ils s'en rendent pas compte. C'est un cocktail, là. Puis il y avait des arancini aux champignons qui étaient délicieuses. Tu sais, puis les gens l'aimaient, mais il y avait quelque chose au bœuf. Puis se dit, pourquoi? C'était-tu vraiment nécessaire dans un petit cocktail de mettre du bœuf? Donc, ça demande pas tant d'énergie que ça, là. Mais comme vous dites, là, c'est... Il y a une évolution à aller chercher pour que les gens... Puis les...
Il y a un côté éthique, il me semble. Et que
aussi.
C'est dans, veux, veux pas, il faut, je comprends pas, moi, que tu vas quelque part, puis on, surtout dans des événements, puis on n'a pas pensé qu'il pourrait y avoir des végétariens parce qu'on est de plus en plus nombreux.
Oui.
Puis, c'est pas... Moi, c'est pas une religion, là. Si je suis obligé, je vais être obligé, mais c'est décevant, tu sais, d'être comme pris, là. Bon, mais là, le repas qu'ils servent à tout le monde, là, c'est du porc ou du veau, whatever.
Ça évolue. Ça évolue. On va dans les restos, maintenant, il y a toujours
restos,
des options.
Il y a un resto qui veut rester ouvert, qui veut fonctionner, il est obligé de...
Ah, c'est le fun.
Parce qu'il perd de la clientèle, là.
Ah oui, c'est le fun, puis il y en a. Mais effectivement, il y a des fois que tu dis, ben pourquoi pas? Puis surtout que ça... Tu sais, quelqu'un qui n'est pas végétarien, même s'il y a un repas qui n'a pas de viande, là, comme je fais souvent la blague, là, il ne manquera pas de protéines, puis il ne manquera pas de fer le lendemain. Là. Je taquinais souvent mes anciens collègues de travail, là, puis je leur disais, hey, fais attention, là, tu manges végé, là, demain, là, tu vas manquer de fer, là, t'sais, en rigolant. Mais je veux dire, c'est pour montrer que quand même qu'il y aurait un repas qui n'a pas de viande, c'est dans un cocktail ou dans un... C'est pas la fin du monde, surtout que ça peut être délicieux, ne serait-ce, comme je disais, des pâtes ou une pizza ou un pâté de quelque chose, puis bien accompagné. Il y a moyen, au niveau éthique, là, de s'assurer que ceux qui ont une option plus végétale aient ce qu'il faut, sans nuire nécessairement à ceux qui sont omnivores, qui une fois de temps en temps, quand même, qui n'auraient pas de viande, ce serait pas la fin du monde. Là, tu sais, donc,
fait que vous avez comme... deux objectifs, la santé des individus puis la santé de la planète.
Ben oui,
c'est ces deux, c'est relié. Puis je pense votre objectif, puis aider les agriculteurs, puis votre objectif, c'est d'arriver à 50% de réduction
d'ici 2030.
D'ici 2030 de la consommation de viande au Québec.
Là on parle du Québec. Mais le Eat Lancet, là, Lancet, c'est pas mal ça qui a... Mais Eat Lancet, comme c'était international, bien, ça dépend des pays. Il y a des pays qui ont un problème d'aliments, les autres qui en mangent, la viande, tu sais. Mais au Québec, puis en Occident, on peut s'en passer très facilement. Là. On ouvre la porte à une épicerie, puis on a l'éventail de la bouffe qu'on veut. Okay? Tandis que dans certains, c'est sûr que sur les plateaux du Tibet, peut-être que là, c'est peut-être plus difficile. Tu sais,
en Argentine, ça a l'air qu'on mange beaucoup de viande.
Oui, ben c'est ça. C'est sûr qu'il y a des endroits dans le Grand Nord canadien que là, on comprend très bien là, que... Ça veut dire que les gens, il faut qu'ils se nourrissent. Puis bon, la viande est là, c'est correct. Là, c'est pas mais la commission Eat Lancet dit bien qu'il faut la réduire parce que leur objectif, c'est comment nourrir 10 milliards d'habitants en 2050. Puis il dit, si on garde le rythme de la viande, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Il va falloir détruire trop de terres, trop de forêts, trop... Puis là, sans parler des insecticides, des pesticides, puis l'impact sur l'eau, puis sur la terre et tout ça, là. Donc, l'aspect pollution. Mais même techniquement parlant, on ne peut pas nourrir 10 milliards d'habitants avec autant de viande. C'est mathématiquement impossible, tu sais. Fait qu'il faut qu'il y ait une réduction quelque part, là, tu sais. Puis c'est ça un peu ce que la commission soulève. Et ce que dit le Guide alimentaire canadien, comme je dis, qui est basé sur des études scientifiques, là. Tu sais, c'est pas, comme je dis, c'est pas des méchants granos, là, qui ont écrit ça en disant, là, faut couper la viande, là. OK, c'est... au niveau santé, au niveau environnemental. Puis de toute façon, le guide alimentaire canadien, c'est uniquement santé, là. Donc, le premier article, c'est clair. Il dit, bon, la viande, oui, c'est bon, mais prioriser les protéines, les aliments, la moitié, là, en fruits et légumes, OK, pour les vitamines, le microbiote, puis tout le kit, là, puis les grains entiers, OK, tout ça. Et oui, des protéines un peu de viande, mais des protéines végétales surtout, là, que ce soit là, des noix. Okay, c'est tellement bon, des noix. Okay, donc, toutes sortes d'options comme ça pour que ça marche à long terme.
Comme nous, au Québec,
Bien, c'est sûr que les noix, on pourrait en avoir, là. Il y en a des noix qui peuvent. Mmh. On pourrait, mais on est, c'est pas dans nos. Il y a des gros changements culturels à avoir de ce côté-là.
Sûr. Ah, c'est sûr.
Mais c'est une transition.
Ouais.
Je regarde comme moi, j'aime le fromage. Alors, ça me dit. Les véganes, je trouverais ça dur.
Ah,
c'est comme une étape qui me. Mais bon.
Moi, c'est la boule de crème glacée l'été. Là.
La c'est crème glacée, ces produits laitiers, c'est quand c'est même un plaisir. Là.
Ben, c'est sûr.
Mais c'est déjà mieux ça, les produits laitiers, que la comme consommation de viande là, rouge. Là.
C'est ça. C'est sûr que c'est déjà ça. Là. De le réduire, tu n'es pas obligé de l'éliminer au complet. Là. Mais tu sais, déjà dans le café, on peut mettre du lait, des breuvages à l'avoine qui peut. On l'a complètement remplacé chez nous. On n'a plus de produits laitiers de ce côté-là. Mais effectivement, le yogourt, le fromage... bon, encore une fois aussi, c'est que ça permet aussi... C'est plus facile d'être intégré dans le monde aussi quand on accepte, si on est en visite quelque part.
Aussi.
Si on coupe les œufs puis le fromage, des fois, c'est plus difficile de...
Oui.
Mais encore là, même les véganes vont accepter des fois d'un compromis, même s'ils ne mangent pas de produits laitiers puis d'œufs dans leur vie quotidienne. À un moment donné, ils sont invités quelque part. Bon, à un moment donné, il y a un compromis à faire, puis une fois de temps en temps, il n'y a rien de grave là-dedans. Là, t'sais, je veux dire, je donne souvent l'exemple, c'est quand je suis allé dans un resto, puis j'ai commandé un bagel aux légumes, puis ils m'ont amené un bagel au jambon. Ben là... T'sais, l'animal était déjà mort, l'impact environnemental était déjà fait, puis ma santé, il n'y avait aucun problème de le prendre. Puis si je le refuse, ils vont le tirer à la poubelle, puis ils vont m'en amener un autre, donc je vais faire du gaspillage. Fait que je l'ai mangé, le bagel au jambon, puis je l'ai apprécié. T'sais, fait qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus capoter.
Il ne faut pas que ça devienne une maladie.
Ouais.
Mais bon, c'est ça, comme tu disais aussi, il y a des endroits dans le monde que ils sont déjà... Là, tu sais, j'ai voyagé comme en Indonésie, là, et pour eux autres, la viande, ils en mangent, mais c'est comme un peu exceptionnel. Là, tu sais,
en Inde aussi.
Ils vont tuer une poule un moment donné parce qu'ils ont de la visite, puis ils vont faire un riz, ils vont mettre un peu de poulet dans le riz. Là.
Ah oui.
Mais autrement, ils ne mangent jamais de viande. Là. C'est
ah oui.
comme la viande, c'est comme quelque chose pour les fêtes. Là,
ah oui. Ah, c'est culturel aussi, c'est culturel. Sûr que depuis qu'on est jeune...
Puis ils sont en bonne santé, là. Ils sont pas malades.
Ça,
puis...
c'est une certitude. Toutes les analyses, toutes les études... Moi-même, je suis pas scientifique, mais j'en ai lu un méchant paquet. Puis les scientifiques le disent tout. Il n'y a aucun problème. On renonce à rien. OK? C'est la fameuse B12 là, qu'il faut faire attention pour les jeunes, surtout les jeunes... Les madames enceintes, etc., il faut faire attention. Puis, au pire aller, on prend un supplément de B12. Si on est vraiment vegan, vegan pur, puis qu'on est jeune, tu prends un supplément de B12, puis c'est une nourriture, c'est tout. Hein? Au lieu de manger un poids, tu manges un supplément, puis t'as ce qu'il te faut. Mais tu sais, les études disent toutes que... Bon, c'est sûr, si t'es végétarien, tu manges juste des chips, là, il faut que ça soit équilibré, là, on s'entend. Là. Ça prend un certain équilibre. Okay? Donc, tant que tu es équilibré, que tu manges un peu toutes sortes de choses, des légumes, des noix, des légumineuses, etc., au niveau santé, les études sont toutes claires et on manque de rien. Là, il suffit d'aller voir M. Junot, là, Martin Junot. Allez, il y a beaucoup de chroniques là, sur le web là, avec lui, puis d'autres sur mon petit site aussi, je fais référence dans mon article sur le VG. Là, il y a une vidéo qu'on peut aller voir, puis c'est une personne qui a fait une méta-analyse, là, puis qui montre là, toutes les analyses qui étaient faites, là, les études, qui montrent bien qu'il y a moyen, on manque de rien. On manque de rien.
Puis même, si on remonte plus qu'anciennement, là, au début de l'humanité, quand on était... Tout début, on vivait en forêt, on était supposément juste végétarien parce qu'on mangeait des fruits, des noix. Puis après ça, on est devenu chasseur-cueilleur. Puis on a comme un mythe que, chasseur... Mais dans le fond, c'est difficile de chasser.
Ouais.
Alors, on était surtout cueilleur.
Ben oui. Puis, on ne tuait pas un mammouth tous les jours.
Non, c'était rare. Là,
ouais.
Mais les Indiens ici, oui, dans l'Ouest, là, ils vivaient du bison.
Ben oui.
Mais semblerait que les chasseurs-cueilleurs, c'était des cueilleurs d'abord.
Ben
puis
oui.
Même quand on pense les Iroquois, les Iroquois qui vivaient ici, là, qui, dans le fond, ils cultivaient le maïs, les courges. Les hommes allaient à chasse, mais C'était rare. La viande était difficile. C'est difficile, la chasse.
Le livre de Sapiens, là, de Harari, là, le fameux livre, très intéressant par ailleurs pour toutes sortes de sujets, mais à un moment donné, il aborde la question, là, effectivement, de l'alimentation. Puis, comme il dit, c'était 80 végétal, puis 20 % animal quand il tuait ou quand il pouvait. Puis quand il tuait, ben, c'était des animaux en liberté, actifs, qui n'étaient pas bourrés de boosté aux hormones, puis
aux antibiotiques,
puis qui ont vu le soleil, là, tu sais, je veux dire, ouais. Comme il explique, mais encore là, tu sais, c'est une question d'équilibre, puis comment est-ce qu'on peut vivre toute cette transition-là, là, c'est sûr, mais c'est clair que au niveau, les deux raisons, là, de, au niveau environnement, OK, c'est clair, au niveau santé, il n'y a aucun compromis. La question éthique, on ne l'aborde pas, mais c'est sûr que on ne l'aborde pas dans notre organisme, mais ça peut toucher aussi des gens, la souffrance là, que toutes ces bêtes-là vivent. Là. OK, puis la vie ou l'absence de vie qu'ils ont, là, parce qu'ils passent la journée attachés. OK, mais ça, nous, on n'embarque pas là-dedans. C'est pas notre critère. Nous, c'est vraiment plus la science. OK, la science, puis la basée sur des analyses très claires. Là.
C'est drôle parce que il y a eu un petit livre qui date de 2010. Nous, de la simplicité volontaire. Ouais, mm-hmm. C'était un regroupement d'articles qu'on avait écrit. Puis il y a une amie à moi qui avait écrit un article. Et si l'on réduisait la consommation de viande, c'est pas nous, hein?
Ben non.
Et puis, elle parle... attendez un peu, je vais vous le trouver, l'article 31. On dit... Dans ce temps-là, on parlait de sauver la planète. Pour sauver la planète, tous les verts vous diront qu'il faut réduire notre consommation. On pense alors immédiatement à la consommation énergétique et surtout au pétrole. Mmh. En effet, les énergies fossiles favorisent l'augmentation des gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. La conclusion du rapport du GIEC de février 2007 affirme que le réchauffement du climat est maintenant sans équivoque et les humains sont responsables. On pense aussi que la consommation de biens matériels, puisque l'obsolescence planifiée de nos appareils... Bon, mais là, je vais aller un peu plus loin où elle parle de la viande, elle dit. Mais mon but est de vous sensibiliser à un autre type de consommation dont on parle moins, la consommation de viande. Mm-hmm. Saviez-vous que notre consommation de viande est une des plus grands facteurs polluants de la planète?
Oui.
Dégradation des sols. L'élevage occupe 70 % des terres agricoles. Mm-hmm. Je ne sais pas si ça a peut-être augmenté.
Ah, probablement, oui.
30 % de la surface des terres de la planète et détruit chaque année des centaines de milliers d'hectares de forêt pour créer de nouveaux pâturages. Changement climatique, l'élevage des animaux pour la production de nourriture génère plus de gaz à effet de serre que toutes les voitures et les camions dans le monde.
Ah oui, c'est clair, parce que le méthane, en plus, il est plus puissant, il dure moins longtemps. Mais dans notre environnement de temps qu'on a maintenant, parce que là, on a plus 100 ans devant nous, le méthane, c'est ça 20-25 ans que ça reste dans l'atmosphère. Donc, ça touche, là. C'est directement, là, tu sais, dans le contexte actuel où il y a une urgence, là.
Puis ça, c'est... disait, en plus de la moitié de l'eau consommée aux États-Unis est pour la production de nourriture, mais c'est animal, là. Mm-hmm. Il faut 21 000 litres d'eau pour produire un kilo de viande.
Ah oui.
En comparaison, il faut seulement 210 litres d'eau pour produire un kilo de céréales. Mm-hmm. Alors, c'est drôle parce que ça date de le 10 ans. Là. Chaque jour, environ 40 000 enfants meurent de faim, souffrent de malnutrition, alors que le bétail mondial consomme une quantité de nourriture pouvant subvenir à 8 milliards d'humains. Pour produire un kilo de bœuf, il faut 7 kilos de céréales.
Ben oui, c'est ça.
Alors, c'est maté. C'est...
N'importe lequel dirigeant d'entreprise, là, j'ai travaillé beaucoup avec des entrepreneurs, dirait oh, c'est l'inefficience même. ça peut pas, là. Tu sais, 7 pour 1, là, tu dis quelque chose qui est déséquilibré là-dedans, là. C'est sûr que c'est pas.
Mais on arrive à la fin de l'émission. Oui. Ça fait que. Je vous remercie, Éric Brassard.
Merci.
Puis, si on veut aller plus loin là, dans notre réflexion, on peut aller voir votre site web. Puis, toutes vos activités.
S'inscrire à l'infolettre. Soit un courriel. Vous ne recevrez pas 3 par semaine. Là. Ça va être un par mois. Puis on vous invite.
Participer à un webinaire.
Il y en a déjà un ou deux qui sont déjà disponibles, ou un autre bientôt. Et puis on vous invite de temps à autre. Puis sur le site, ben, il y a beaucoup
puis
de
sources. Puis votre lettre aussi ouverte qu'on peut signer.
La lettre ouverte au gouvernement, puis tout ça. Puis quelques articles à gauche et à droite, OK, qu'on a mis sur le site. Donc...